J'aime la Bible. Hein? Est-ce que ça s'est allumé? Ouais. Et j'aime la Bible, autrement, je n'aurais pas passé deux tiers de ma vie à étudier et à transmettre aux autres. Hein? Mais honnêtement, il y a des passages où je ne suis pas trop fan. Hein? Les pages de généalogie, je ne sais pas combien qui suit. Oui, voilà. Des chapitres des prophètes que je ne comprends rien. Des passages avec des idées de notre âge. Un peu comme le texte qui va nous intéresser aujourd'hui. Je ne suis pas trop fan, hein? Mais voilà. Alors, j'espère seulement hein, que vous arrivez à m'écouter jusqu'à la fin. C'est très important. Hein? C'est très important pour la compréhension. Parfois, il suffit un mot. Et on décroche. On y pense à toute autre chose et on n'est plus là. Alors laissez-vous guider jusqu'à la fin et j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire, hein, s'il vous plaît. Et en plus, on va rencontrer un homme mystère, un mystérieux inconnu. Alors, on va lire Éphésiens 5, versets 18 à 33. Vous pouvez lire, voilà. Ne vous envivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment rempli par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant des psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remerciez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous recevrez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Ah, et maintenant, vos femmes en particulier, chacun a son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, et donc il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Ah, peut-être ça. Ah. Attends, peut-être là. Voilà. Quant à vous, Marie. Ah, voilà, attends. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, afin d'avoir purifié par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Alors, l'être mystère dans ce texte, c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit. Vous avez peut-être remarqué dans le texte, il y a question de Dieu, du Fils de Christ et du Saint-Esprit. Trois mots qui désignent le même Dieu, hein, unique. Nous avons Dieu comme créateur, le maître de toutes choses. Nous avons Jésus-Christ, c'est le Dieu incarné, qu'on dit parmi nous, hein, c'est-à-dire Dieu devenu homme. Et nous avons le Saint-Esprit ou l'Esprit, qui fait le lien avec Dieu. Hein? C'est lui qui fait le lien entre ma personne et Dieu. C'est lui, c'est par lui que la relation avec Dieu, l'homme et Dieu, est possible hein, et concret. On peut certainement dire que l'Esprit est la présence de Dieu dans nos cœurs. Ah non, pardon. Être rempli. Le texte parle d'être rempli du Saint-Esprit. Si, par exemple, dans une relation, ça peut arriver, vous voulez recommencer à zéro cette relation. Vraiment dire, ah voilà, on laisse tout à côté, on veut recommencer à zéro. On veut laisser tout derrière qui est lié à notre passé. Rancune, incompréhension, conflit, malentendu, et ainsi de suite. Si possible, on veut commencer à zéro avec rien. Dans notre relation avec Dieu, c'est un peu comme ça. Quand vous avez compris que Dieu veut avoir une relation avec vous, que Dieu veut entrer dans votre vie, alors vous commencez votre vie à zéro. Dieu veut avoir toute la place de votre vie, de votre cœur. Vous laissez derrière vous ce qui est égoïsme, méchanceté, conflit, manque d'amour, et ainsi de suite. Et maintenant, on a ce désir dans ce vide d'être rempli par Dieu lui-même, comme l'amour, la paix, la patience, l'esprit, quoi. Hein? L'esprit de Dieu qui remplit notre cœur. Alors, pourquoi? Ah non, il faut... Tu continues? Pardon. Voilà. Verset 18. On essaye d'avancer doucement. Hein. Dans le verset 18, il commence comme ça. Ne vous enivrez pas de vin. Enivrez pas de vin. Cela vous conduira à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Avant que je veux plus vous dire ce que ça veut dire d'être rempli, peut-être il faut se demander, mais pourquoi il parle d'ivresse? Qu'est-ce qui se passe par sa tête là, de parler du vin et d'être rempli du vin? Pour savoir, il faut passer quelques années avant. Jésus qui est venu sur la terre en tant que fils de Dieu, il a vécu sur la terre, parmi les hommes, il est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité après 3 jours et il est parti rejoindre son Père céleste. Avant son départ, il a dit, moi je vais partir, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Alors, il va envoyer son Saint-Esprit, qui va un peu remplacer Jésus sur la terre. La présence de Dieu dans le cœur des hommes. Et alors, le moment où le Saint-Esprit est venu pour la première fois, hein, c'est Actes chapitre 2, pour la première fois dans l'histoire, au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui ressemblèrent à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux qui était à Jérusalem. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils commencèrent à parler des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Et plus tard, en attendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux entendait parler dans sa propre langue. Et encore un peu plus tard, ils étaient tout perplexes d'entendre de parler. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient les choses en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule, écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insignent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Alors, de là, hein, de vin, c'est comme l'ivresse. Quand le Saint-Esprit tombe sur les gens, c'est comme s'ils sont ivres. Parfois, saisis par des émotions, on fait peut-être des choses qu'on ne fait pas normalement. Ça peut arriver dans l'Église, sous l'influence du Saint-Esprit et de l'adrénaline. Comme ça arrive sur un terrain de foot. Hein, ceux qui regardent, si quelqu'un marque un foot, qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent tout l'un sur l'autre, ils s'embrassent. Jamais ils font ça, certainement ailleurs. Jamais. Ils regardent l'autre sport, ils sont comme fous quand ils gagnent et tout ça. Hein, parce qu'on fait des choses sous l'influence de l'adrénaline. Et voilà, et dans l'Église du Saint-Esprit. Voilà, on fait peut-être des choses qui ne sont pas normales. Alors, si ça arrive dans l'Église une fois, n'ayez pas peur. Hein, c'est vraiment pas dangereux. Hein. Parfois, l'amour déborde. Hein, l'amour déborde et c'est bien comme ça. On montre combien on aime. Vous vous rappelez peut-être l'histoire de David? Hein, quand l'arche était en dehors de la ville et enfin, elle retourne à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait, le David, le roi, à l'époque? Il dansait comme un fou devant, parce qu'il était tellement content, tellement plein de joie parce que cette arche rentre enfin à nouveau à Jérusalem. Voilà. Tout le monde autour de lui, même sa femme, a dit, mais il est fou, quoi. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut se comporter comme ça? Voilà, parfois, hein, l'amour nous pousse. Hein, et si après, et si on chante, et il y a certains qui lèvent les mains et tout ça, et vous mais qu'est-ce qu'il fait là, le? Mais il est fou, quoi. Non, hein, c'est seulement l'amour qui montre, hein, qu'il est content, qu'il veut montrer au Seigneur, oui, je suis là, et je veux exprimer mon amour, c'est tout. Voilà, alors, pour ça, l'ivresse, je parle. Après, il y a trois choses que... Non. Alors, il y a la louange. Tu peux... verset 19. Il y a trois choses que le remplissage du Saint-Esprit nous amène, nous pousse faire dans notre vie. C'est la louange, verset 19. Ainsi, hein, rempli du Saint-Esprit, rempli de Dieu... Vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Il semble que la louange, il a une double fonction. Et les deux fonctions ne sont pas égoïstes. Ce n'est pas toi qui es au centre de la louange. Hein, c'est pas pour toi qu'on loue le Seigneur. C'est pas pour ta propre satisfaction. La louange, la fonction humaine, c'est l'encouragement les uns des autres. On veut encourager l'autre à louer le Seigneur. On n'est pas là, ouh, je veux maintenant moi. Non. C'est marqué ici. Hein. Vous vous encouragez mutuellement. Vous louez le Seigneur pour l'autre, pour encourager l'autre, montrer l'amour de Dieu. Si tu cherches ton propre kiff, tu as mal compris des choses. Tu n'as rien compris de la louange de Dieu. Et il y a une fonction divine de la louange. Et ça se manifeste dans ton regard vers le Seigneur. Elle est au centre, le Dieu unique. Pas forcément ce qu'il fait dans votre vie. On est tellement souvent toujours repliés sur nous-mêmes. Ah, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. C'est bien, c'est bien. Mais aussi, regarde vers Dieu pour ce qu'il est, pour sa personne. Hein? C'est ça aussi, la louange. Il a une double casquette. La reconnaissance. Verset 20. À tout moment et pour toute chose, vous remerciez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus vous êtes remplis du Saint-Esprit, plus vous laissez de la place à Dieu dans votre cœur et dans votre vie entière. Et plus vous allez remarquer, tout vient de lui. Tout vient de lui. Alors plus que vous êtes amené vers la reconnaissance, pour moi, hein, perso, c'est un bon baromètre pour moi. Hein, à savoir combien ta vie est dirigée par le Saint-Esprit. C'est la reconnaissance. C'est là où tu remarques, ah voilà, l'Esprit de Dieu habite dans mon cœur. La reconnaissance. L'échelle de la reconnaissance. Est-ce que je suis content de ce que j'ai, de ce que le Seigneur me donne? Est-ce que je peux continuellement dire merci? Parce qu'on cherche, peut-être je le dis après encore, hein, je ne sais pas, on cherche toujours je ne sais pas quoi à l'église. Oh, on va être rempli du Saint-Esprit, waouh, ça va être... Hein, c'est aussi là. Hein. Tout simplement être reconnaissant de ce que j'ai. Et verset 21, il parle aussi de la communion fraternelle. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Hein, si Paul parle de communion fraternelle dans l'Église, il ne parle pas de copinage. Hein. Il parle de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Hein. Beaucoup plus profond. Où l'un peut se soumettre à l'autre et ne veut pas être le devant. Hein? Ou qui fait tout de suite la tête quand une fois ça ne marche pas comme je veux. On peut se soumettre à l'autre. On peut aussi peut-être parfois faire des choses qu'on ne veut pas faire. C'est comme ça. Hein? Hein? Si dans mes 40 ans chrétien, j'aurais toujours fait ce que je veux, je serais partout, mais pas ici. Mais parfois, il faut faire des choses. Et après, le Seigneur dirige-nous vers des choses à nouveau. Hein? C'est comme ça. Hein? Être rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, vous attendez peut-être tous, voilà, qu'est-ce qu'il va dire, hein, Tom? Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Et voilà, je passe à mon deuxième point. Être rempli du Saint-Esprit dans la réalité de la vie de couple. Être rempli du Saint-Esprit dans la réalité de la vie de couple. Si on ose de se confronter à la Bible, hein, qui est, soyons honnêtes, pas de toute jeunesse, hein, il faut souvent poser cette question. Hein, quel point sont indiscutables? Quels points de doctrine, par exemple, on ne peut pas discuter? Et quels sont les points où on peut discuter ensemble? Quelle est doctrine de Dieu et quelle est... Voilà, parce que c'était le contexte à l'époque. Vraiment, ce n'est pas évident du tout. Parce qu'on veut vivre le plus proche possible de Dieu ou de ce que Dieu veut. On veut prendre la parole de Dieu au sérieux. Mais comment? Comment il faut se comporter au 21e siècle sur la base d'un livre de 2000 ans? Ça, la question. Alors j'attaque. Hein? Les femmes en particulier. Vous, femmes en particulier, verset 1, je pense que tu peux... Ah non, c'est déjà... En particulier, chacune à son mari. Il parle de soumission. Hein. Et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, et donc il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Vous voyez? Et je ne veux pas mettre toutes les femmes sur le dos, hein? Mais hein, je ne veux pas tordre la parole de Dieu. Parce que Dieu voulait nous donner avec la Bible un guide pour notre vie de tous les jours. Un guide pour régler, c'est certainement pas vraiment le bon mot, hein, nos familles, nos églises, notre société, notre regard sur le monde. La Bible est une aide, un encouragement, une direction, une correction et beaucoup plus encore. Mais Dieu ne veut pas que nous fassions n'importe quoi avec sa parole. S'il dit quelque chose est noir, on ne peut pas dire que c'est blanc. Deux. Le problème dans l'église d'Éphèse. Pour moi, hein, perso, hein, Paul, ici avec ce texte, il répond clairement à un problème qu'il y avait dans l'église d'Éphèse. Il y avait certainement un déséquilibre dans le pouvoir de l'Église. Et il faut bien comprendre que Paul, il répond comme un homme de son époque. Hein, il n'est pas un homme du 21e siècle, il était un homme de son époque. Et il n'était pas le premier féministe. Ça, c'était Jésus bien avant lui, hein. On peut se demander si Paul n'était pas tellement virulent, hein, verset 24, hein, en toute chose, il faut pour simplement rectifier la balance, pour trouver un équilibre. Vous vous rappelez ce que Paul dit avant qu'il parle aux femmes? Vous vous soumettez les uns aux autres. Ça qui est important. Alors, sans tordre ce que Paul dit, je ne crois que nous sommes ici devant un problème d'église d'Éphèse. Parce que pour moi, le passage référence dans le problème homme-femme, c'est pas ce texte-là, c'est Galates chapitre 3. Je pense que je l'ai marqué. Hein. Car vous tous qui avez été baptisés par le Christ, pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Je crois à l'égalité entre les hommes et les femmes, avec une soumission mutuelle. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Je ne crois pas au patriarcat, on dit comme ça, patriarcat, qui veut garder la main mise sur la famille et l'Église et la société. Et je ne crois pas au féminisme extrême qui veut finalement simplement renverser la donne. Je crois à l'unité et à l'avenir de l'Église, hommes et femmes unis, avec le même désir avancer dans le royaume de Dieu. Je passe aux hommes. Voilà, les hommes en général. Je pense que Paul reproche aux femmes de l'Église d'Éphèse de prendre trop de place. Et il reproche, à mon avis, autant le manque d'amour des hommes envers les femmes, si je peux le dire comme ça. Comprenons bien. Être en harmonie avec Dieu, être rempli du Saint-Esprit, se manifeste certainement dans la louange et dans la reconnaissance, dans la prière ou toutes sortes de trucs hyper spirituels, mais aussi très, très terre à terre, dans la vie de couple, dans la place que chacun revendique et dans l'amour que chacun manifeste. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnant de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. J'ai largement pas assez de temps de tout expliquer, hein, de ce qu'il y a dans ce texte. Hein. Paul demande aux hommes d'aimer leur femme d'un amour irréprochable. Il prend même, et là, hein, il est fort, hein, il prend même l'image, hein, de Jésus pour son Église. Il nous a tellement aimés qu'il est mort à la croix pour nous. Et Paul, il demande le même amour des hommes pour leurs femmes. Paul parle d'un amour qui fait rayonner, un amour qui met en avant l'autre, un amour pur qui a Dieu comme centre, un amour sans reproche, sans domination, sans prise de tête, sans silence imposé, etc. Et Paul va encore plus loin. Il veut des hommes qui aiment d'un amour irréprochable, mais aussi qui aiment comme votre propre vie. Verset 28. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï son propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure des soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Chers hommes parmi nous, hein, nous sommes responsables pour le bien-être de nos femmes. Et toujours, Paul fait la comparaison avec le Christ et l'Église. Comme le Christ fait tout pour le bien-être de son Église, l'homme doit tout faire pour le bien-être de sa femme. Écoutez bien, hommes et femmes, c'est ça, être rempli du Saint-Esprit. On attend toujours des choses extraordinaires et spirituellement grandioses si on parle du Saint-Esprit et son œuvre dans nos cœurs. Mais la réalité est beaucoup, beaucoup plus terre à terre. Aimez-vous, simplement. Versets 32 à 33. Il est là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Retrouvez-vous là où est votre véritable place, homme et femme. Là où il y a respect et amour. Là où chacun est pris au sérieux. Là où chacun ou chacune peut se soumettre à l'autre librement. Là où vous pouvez construire une vie en compagnie du Saint-Esprit. Et alors, vous n'avez pas besoin de vin ou de je ne sais pas quel stimulant pour avoir le kiff de votre vie. Laissez Dieu faire. Laissez-vous saouler par lui, sans gueule de bois et sans cirrhose du foin. Prenez Dieu au sérieux. Laissez-vous inspirer par lui. Laissez-lui remplir votre cœur pour le louer, pour lui dire merci, pour vivre une Église de qualité, mais bien au-delà, pour vivre un couple de rêve. Aimez-vous simplement. Voilà quelques pensées sur un chapitre, pas un texte pas évident. Voilà. Je pense que chacun a pu prendre quelque chose pour lui et pour sa vie.